Alors, peut-être vous pouvez lever avec moi. On va prier avant d'entrer dans la parole de Dieu. Parce que moi, je peux tout par Christ qui me fortifie, mais je peux rien moi-même. Amen. La bonne nouvelle, on n'est pas toute seule. Amen. Alors, merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Que tu es là pour nous guider dans toute la vérité. Que tu me donnes la capacité de parler ta parole. Que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos cœurs pour comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta présence ici. Merci pour chaque personne. Et je prie pour chaque cœur qu'elle soit attentif à ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, regarde avec moi dans vos Bibles, à Philippiens, chapitre 3, versets 13 et à 14. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, « Mais je fais une seule chose. » Tapez vos voisins. Il dit, « Une seule chose. » Oublions ce qui est derrière moi et tendons. Frappez ton voisin, dis tendons. Tendons. Le monsieur là, il n'était pas frappé. Je veux pas qu'il se sente seul. Frappe le monsieur. Voilà. Tendons. Ça veut dire quoi tendons en français? Ça veut dire allons devant, non? Alors tout le monde, essaye d'aller devant. Tendons un peu. En anglais, I'm reaching out. Je presse vers l'avenir. Alors maintenant, regarde en arrière, vos voisins en arrière, et essaye de tendre en même temps. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas regarder en arrière et tendre en même temps. Soit on est en train de regarder en arrière, soit on est en train d'aller plus loin. Mais on ne peut pas être au milieu, il n'y a pas de point mort. Soit on va là-devant, ou soit on regarde en arrière. Et puis Paul, son stratégie, une seule chose que je fais, une seule chose, oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie, dites ça avec moi, toute mon énergie, vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Paul, Jésus, Pierre, tous les trois, ils parlent de l'avenir beaucoup. Et nous, on doit penser. La chrétienté, c'est quoi? L'espoir, foi et l'amour. On parle beaucoup de la foi, il faut aimer. Mais l'espoir, c'est l'ancre de notre âme. Dans ces derniers jours, on va traverser, ça fait des semaines maintenant, je prophétise Ésaïe 60. Une grosse ténèbre va couvrir la terre. Mais la lumière de Dieu va se lever sur vous et moi, sur l'Église. Et les nations viendront à la lumière de Dieu. Lève-toi et brille, car la gloire de Dieu est tombée sur vous maintenant. Alors, je ne peux pas dire que tout est positif, parce que dans l'avenir, il y a le ténèbre qui va couvrir la terre. Mais les gens qui tendent l'avenir, tendent vers l'avenir, la lumière de Dieu va tomber sur eux. Oh, j'aime bien 1980. On avait une réveil à Dallas, Texas en 1980. C'était glorieux. 1980, on avait une réveil. Oublie le réveil 1980. Tendons. Dieu, il a quelque chose de merveilleux pour chaque personne ici. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais bien que vous reteniez ce matin. Un tiers de la Bible est prophétique. Un tiers. Ça veut dire, ça parle de l'avenir, de notre avenir. C'est glorieux. Jésus revient bientôt. Jésus, il a dit, hein, il va avoir des famines, les guerres, il va avoir... Les maladies. Mais quand tu vois tout cela, lève ta tête. Pas parce que tu aimes ces choses, mais parce que ta rédemption approche. Maintenant, c'est le moment de lever la tête. Maintenant, c'est le moment de lever la tête. Notre rédemption approche. Moi, j'ai promené hier dans la ville. Tout le monde faisait le commerce, le shopping. Et puis, oh, j'ai vu toute cette humanité. J'ai dit, waouh, quel magnifique endroit que Dieu vous avait placé. Vous êtes le levain ici. Et ce que vous priez, ce que vous recevez de Dieu, ça va avoir une diffusion ici. Déjà, il y a une diffusion ici à travers vous. Et le corps de Christ ici en ville. Amen. Mais Paul, Pierre, Jésus, ils prêchent sur l'avenir. Un des messages le plus court que Jésus a jamais prêché. Trois mots. Il avait toute une église et puis il prêchait trois mots et il part. Il disait... Souvenez-vous de la femme de Lot. En anglais, c'est trois mots. En français, c'est plusieurs mots. Remember Lot's wife. Souvenez-vous la femme de Lot. Quelle est l'histoire avec Lot, sa femme? Tu te souviens bien, le salut de Dieu était annoncé. Vous avez le salut, cours vers le salut. Ils étaient en train de quitter Sodome et Gomorre. Dieu, il a promis, je vais les sauver. Mais il a dit, seulement, regarde pas en arrière. Ils sont en train de fuir vers le salut. Et puis la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se tournait et elle était congelée. Elle est devenue un pilier de sel. Elle était congelée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas juste fait comme ça pour voir le feu. Je crois que dans son cœur, elle était un peu nostalgique. Elle tourne vers la nostalgie et son avenir, son destin était congelé. Et maintenant, ce n'est pas le moment d'être nostalgique. Oh, je me souviens bien, le franc français, ça valait beaucoup plus que l'euro, hein, tu sais. Oh, oublie le franc français. On va bientôt oublier le dollar. On va regarder vers le but. Amen. On regarde là-devant. On ne va pas être congelé dans notre avenir. Alors, maintenant, j'aimerais bien que Marc vienne, s'il te plaît. Il y a un sociologue chrétien aux États-Unis, très connu, Anthony Campolo. Et puis, il a étudié toutes ces choses au niveau du comportement humain, la science, le comportement humain et tout ça. Et puis, écoutons ce qu'il a dit, lui. What you commit yourself to be will change what you are.
Te consacres, c'est le mot que je cherchais, merci. Ce que tu te consacres à être va déterminer qui tu es.
And make you into a completely different person.
Et va te transformer en une personne totalement différente.
It's not the past, but the future that conditions you.
Ce n'est pas le passé, mais c'est le futur qui te conditionne.
Because what you commit yourself to become.
Parce que ce que tu te consacres à devenir
determines who you are.
Détermine qui tu es.
More than anything that ever happened to you yesterday.
Plus que quoi que ce soit qui ait pu se passer hier.
Therefore, I ask you a very simple question.
Ou le jour d'avant. Alors, je te pose donc une simple question.
What are your commitments?
À quoi te consacres-tu?
Where are you going?
Où vas-tu?
What are you going to be?
Que vas-tu devenir?
Show me someone who hasn't decided.
Montre-moi quelqu'un qui n'a pris aucune décision.
And I'll show you someone who has no identity, no personality, and no direction.
Et cela me montrera quelqu'un qui n'a aucune identité, aucune personnalité, aucune direction.
Where are you going?
Où vas-tu?
Ça m'est égal si vous venez de Texas, si vous êtes belge, si vous êtes italien. C'est égal d'où vous venez. Où est-ce que vous allez? Vous allez où? Moi, je vais au ciel. Moi, je cours vers le but que Jésus a pour nous, le grand prix. Amen. Tu sais, en 1967 ou 69, NASA, ils ont mis les hommes sur la Lune. Vous vous rappelez? Moi, je rappelle, je suis un peu plus âgé que vous, je crois. Et puis, ils ne savaient pas comment y arriver, en fait. Ils sont partis sans savoir vraiment comment y arriver. Et pire, ils ne savaient pas comment revenir. Ils avaient des petits fusées qui étaient censés de fonctionner pour entrer dans l'orbite, pour rentrer dans l'orbite de la Terre. Mais ces petits fusées, ce n'était pas sûr qu'ils fonctionneraient. Et puis, le journaliste a demandé à l'astronaute Armstrong, « Hey, Monsieur Armstrong, si ces petits fusils ne fonctionnent pas pour fusées, si ces fusées ne fonctionnent pas pour que tu puisses rentrer, qu'est-ce qui va se passer ?» Il a dit, « Ça va vraiment gâcher ma journée. » Il était déterminé, quoi. Moi, je vais à la Lune. Ça m'est égal, je sais même comment je vais arriver, mais j'y vais vers la Lune. Et puis, au mi-chemin, ils ont fait un petit ajustement, encore un petit ajustement. Et puis, quand ils sont revenus, les fusées, ils sont marchés, quoi. Il est pu rentrer. Mais il est parti. Amen. Ça, c'est un peu la stratégie de Paul. Pour les chrétiens, Cortés, conquistador de l'Espagne, je crois, qui est allé en Amérique du Sud, il est arrivé, tous ses soldats, ils sont descendus de le bateau, il a fait quoi? Brûle le bateau. Brûle le bateau. Il a brûlé le bateau. Il a dit à ses soldats, la seule victoire, Le seul moyen de sortie, c'est la victoire. Quel pasteur! Moi, j'aimais bien être dans son église. Pasteur Cortés. Hein? Non? Il y a certains bateaux ici ce matin qu'on doit brûler. Oh! Certains pans qu'il faut brûler. certaines passées qu'il faut brûler, à moins que vous voulez devenir une statue de sel. Moi pas. Moi, j'aimerais bien aller plus loin. Amen. Si, ce qui se passe, notre avenir, ce n'est pas dans les mains de nos ennemis. Notre avenir ne sont pas dans les mains du pasteur, ni de notre femme ou de notre mari. Même si vous êtes citoyenne dans un pays communiste, même si vous êtes en Russie ou je ne sais pas ailleurs, que vous n'êtes pas libre, votre avenir n'est pas dans les mains du gouvernement. Un gouvernement meilleur qu'ici ou pire qu'ici. Notre avenir est dans le cœur de Dieu. Et même si vous êtes riche et en royauté, à moins que vous cherchez votre avenir en Dieu, vous n'allez jamais trouver. Moi, je ne peux pas prophétiser, on peut, que sera, sera, on peut attendre pour l'avenir aussi. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui, on verra. Ah non, tu ne vas pas voir. Si tu dis on verra, il faut le chercher. Il faut chercher cet avenir et il faut tendre. Paul il dit une chose, je fais quoi? Je tends vers l'avenir. Amen. Alors Colossiens chapitre 3 verset 1 à toi, qu'est-ce qu'il est écrit? On va prendre du temps pour le lire. Normalement je vais trop vite, mais là on va le lire. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Ça c'est une bonne nouvelle déjà. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, dites toute votre pensée. Tendez vers les réalités d'en haut et non vers celle-ci, celle qui appartient à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Wow! Ça c'est fort, hein? Il y a des choses qui nous appartiennent à la droite de Dieu. Et c'est Jésus qui protège, qui prend tout cela pour nous. Notre avenir est dans le cœur de Dieu. Quand moi j'avais 17 ans, j'étais dans une église, une magnifique église, mais j'ai visité une autre, et puis ils avaient une femme très grande, avec une petite chinoise, un chignon ici. Et puis, elle était noire et pentecôtiste. Et puis elle m'a vu. Ha, 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 ha. C'était bizarre son voix. Elle m'a cité 1 Corinthiens 2:9. L'œil n'est pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni les choses ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'avais des frissons, les chairs de poule, quoi. Je me dis, wow, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quoi? Elle ne m'a pas dit. Elle n'est pas capable de me dire. Vous n'êtes pas capable de me dire. Moi, je ne suis pas capable de vous dire. Oh, petite Sarah et puis Anna, je ne suis pas clairvoyant. Je ne peux pas dire ce qui attend. Mais Dieu peut, Dieu sait. Si cette femme m'aurait me dire, moi j'avais 17 ans, 18 ans, texan, j'avais même pas de passeport, j'avais pas l'idée de partir, j'adore mon pays. Si elle m'aurait dit, tu vas marier avec une Suissesse, tu vas partir en Pérou, tu vas flotter sur l'Amazon, tu vas prêcher l'évangile dans l'Amérique du Sud, Haïti, Mexique, tu vas prendre un avion, tu vas en Belgique, Islande, et puis après tu vas arriver donc à l'Ukraine où tu vas prêcher, puis après en Australie, Brisbane, à Pâques, et puis après Vietnam, et puis après tu vas sortir en Écosse, et tu vas jouer au golf, tu vas battre le pasteur, et puis tu vas prêcher dans son église. Et après, c'est la folie. Si moi je dis, ouais, toi tu vas être à Hong Kong l'année prochaine, tu vas marier avec une chinoise et puis ça va te pêcher quoi. Tu dis, il est fou, non? Cette femme m'a rien dit, elle m'a cité un verset biblique, comme moi je suis en train de vous citer aujourd'hui. Vous êtes un mystère, chaque chrétien, nous sommes un mystère, un mystère. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10, qui était caché depuis le début du monde. Et Dieu a choisi votre vie, votre famille, votre corps, votre âme pour être manifeste ici, maintenant. Et la seule manière que cette mystère, ce n'est pas avec, ouais, on fait une chasse aux œufs, on va faire un programme d'évangélisation. Tout ça, c'est magnifique. Ça, c'est des bons buts à avoir. Mais votre rôle à jouer là-dedans, c'est d'autres choses. C'est que vous qui puissiez vraiment ajouter à l'Église, à la famille de Dieu, à la maison de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que Pasteur Elisabeth a dit, que ouais, on est le faire, aiguise le faire, et moi je suis censé dans la famille de vérifier que chacun de nous entre dans notre rôle. Mais c'est vraiment chacun de nous qui sont responsables. Tu te souviens, Pierre, Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, qui suis-je? Et puis Pierre, il a dit quoi? Et ça c'est, peut-être Marc peut revenir. J'ai une traduction un peu moderne que j'aimerais bien lire. Tu te souviens bien, Pierre a réalisé que c'était le Christ. Hein? Et puis dans une traduction moderne, il dit cela. Après que Pierre, il a dit, tu es le Christ, Jésus, il a dit, you didn't get that answer out of books or from teachers.
Tu n'as pas sorti cette réponse des livres d'école.
My Father in heaven, God himself, let you in on this secret who I really am.
Mon Père céleste, Dieu lui-même, t'a fait entrer dans le secret de qui je suis vraiment.
And now I'm going to tell you who you really are.
Maintenant, je vais te dire qui toi tu es vraiment.
You're Peter, and on this rock I'll build my church.
Tu es Pierre, et sur ce rocher, je vais construire mon église.
A church so expansive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out.
Une église tellement remplie d'énergie, qui déborde tellement d'énergie que même les portes de l'enfer ne seront pas capables de la retenir.
God sees you and me.
C'est-à-dire que Dieu nous voit, toi et moi,
so expansive,
tellement débordant
that even the gates of hell can't keep us out.
Que même les portes de l'enfer ne peuvent pas nous retenir.
He sees you and me offensive.
You want to preach in English?
Il nous voit offensif, pas défensif. Pas une défensive ici. Chaque chrétien est offensif, qui porte l'amour de Dieu dans ce monde. Vous allez bien? Moi, j'en ai marre de voir les chrétiens qui disent « Moi, j'ai besoin de délivrance. » Non, le diable a besoin de délivrance. Chaque matin que vous vous réveillez, le diable dit « Oh non, elle est encore vivante, elle est réveillée maintenant. » Il a besoin de délivrance. Les chrétiens, comme Pasteur Elisabeth a dit, il est sur nos pieds. Amen. Parlons de basket un peu. Basket, vous jouez basket un peu ici en France? Vous connaissez le basket? Tu sais, c'était à l'époque 1930, je crois, aux États-Unis, beaucoup de jeunes hommes, ils n'avaient pas de vision pour la vie. Alors, ils se bagarrent dans la rue. Et puis, c'était YMCA, le YMCA, qui a inventé le basket pour donner les buts clairs aux jeunes hommes. Ils ont mis un panier là, et puis un panier là. Et puis, l'Église, on a des buts comme ça. Connaître Dieu, et puis, fais-lui connaître. Alors, les buts sont superbes. Fixer un but, on a des buts déjà fixés. Mais qui a déjà vu Michael Jordan? Ça, c'est pas le basket. Ça, c'est un tigre, un lion qui vole dans l'air. Je sais pas si vous avez jamais vu cette poster. Il a ce basket. He saute. We're gonna drop that thing down there. And he slammed that ball down into the net. Il a pris ce ballon, il a dit, je vais frapper cette filer avec cette ballon, ça c'est la vision. Parce que quand moi je joue au basket, moi je suis comme ça. Je tire comme ça. Mais lui, il a cette vision. Et je ne sais pas si vous avez jamais vu cette poster. Il vole. Ah, pouf. Et ça c'est le chrétien. Ça c'est comme Dieu voit l'Église. En train de... Poum. Et ce n'est pas juste un petit truc. La ligne est là. Lui, il a sauté avant la ligne. Ah! Ça, c'est la vision. De fixer un but, c'est une chose. Mais d'avoir la vision, c'est d'autres choses. Et Paul, il a dit une chose que je fais. Je fais une slam dunk. One thing I do. I slam dunk the basketball. Amen. Ah! Moi, je suis prêt. Tu sais, un jeune homme, il est venu vers son pasteur. « Pasteur, je ne peux pas arrêter de penser aux filles. Je suis obsédé par les filles. Que puis-je faire? » Et le pasteur a dit, « Cherchez un bidon. Remplis ce bidon de l'eau jusqu'au bord. » OK, voilà. Il a son bidon. Il dit, « Maintenant, fais le tour de l'église 3 fois. Et une goutte ne peut pas tomber. » OK, il a fait ça. Il a fait le tour de l'église 3 fois. Il est revenu avec le bidon. « OK, maintenant quoi? » Il a demandé, « Combien de fois est-ce que tu as pensé aux filles? » « Oh, pas une fois, quoi. » avec une vision. Tout change, quoi. Nos ennuis, ils s'enfuient, quoi. On tend vers... On n'a pas du temps pour les autres choses. On n'a pas de temps. Ah oui, mais quand tu étais petit, tes parents, ils n'étaient pas sympas avec toi. Oh, laisse tomber ça. Amen. Au Texas, on dit, si vous êtes laide, ça c'est peut-être grâce à tes parents. Mais si vous êtes stupide, ça c'est votre propre choix. C'est un peu de psychologie texan. Vous avez déjà entendu ou vu Helen Keller? C'est une fille qui était née aveugle et sourde. Elle était déconnectée avec le monde entier. Elle casse les trucs. Ses parents, ils étaient riches. Ils ont engagé une infirmière pour vraiment essayer de toucher le cœur de cette fille. Avec des signes de langage de signes dans sa main. Enfin, elle est entrée dans la vie de cette fille. Elle est devenue civilisée, quoi. Jusqu'au point qu'elle a commencé à dresser des foules. Elle a commencé à partager avec les gens, quoi. Et puis, un journaliste lui demandait, qu'est-ce qui peut être pire que d'être né aveugle? Et Helen Keller, elle a dit, d'avoir des yeux, mais pas de vision. Ça peut être pire. Parce qu'elle n'avait même pas les yeux, mais elle avait une vision pour sa vie après. Elle a trouvé une vision pour sa vie. Martin Luther King, le noir américain. Moi, j'ai un rêve, je veux voir. Il avait un rêve et puis un autre message qu'il a prêché. C'est comme Moïse, j'ai monté sur la montagne. J'ai vu dans la terre promise. Il était assassiné le lendemain. Mais il a vu, il avait la vision. Il se tend vers une société mélangée dans l'amour de Dieu. Il était très engagé en tant que chrétien. Amen. Disney. Walt Disney, il a rêvé pour un endroit, pour amener son fils. C'était ça le but. C'est pas pour gagner du fric. C'était d'avoir un endroit pour amener son fils dans la sécurité. Mais il est mort avant qu'ils en ouvrent les portes. Et puis, le jour J qu'il ouvre les portes, le nouveau PDG, il a dit, « Oh, c'est dommage que Monsieur Disney n'est pas là aujourd'hui pour le voir. » Et sa femme, Madame Disney, elle se lève et dit, « Excusez-moi, il a vu ce jour. » Et c'est pour cela que ce jour a eu lieu, parce qu'il a vu ce jour. Amen. Et puis Paul, ça c'était son stratégie numéro un. Et puis maintenant dans notre église à Montreux, nous sommes en train de prier chaque matin, jusqu'à mi-février, prions Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 22. Que le Seigneur me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin de connaître l'espoir de mon appel, la richesse de mon héritage et la puissance de Dieu envers moi qui croit, la même puissance qu'il a utilisée en ressuscitant Christ entre les morts. C'est une prière de humilité. Montre-moi, Seigneur, ta gloire. Montre-moi ton espoir. Pas forcément la responsabilité d'être chrétien, mais l'espoir d'être un chrétien. La richesse de mon... Tu sais, tu as une richesse. Tu sais que tu as un espoir, tu sais la même puissance qui a ressuscité Christ entre les morts est disponible pour nous aujourd'hui. Dès que mes enfants, ils étaient des enfants, des gamins, des petits, j'ai prié cette prière avec eux chaque soirée. Ils sont au lit, et puis David, Rochelle, Marie, j'arrive, et j'impose les mains sur le ventre. Waouh, espoir, richesse, puissance. Et puis eux, ils sont, ah papa, laisse-moi tranquille. Ils rigolent, mais maintenant ils se souviennent quoi. Il se souvient, espoir, richesse, puissance. Et seul Dieu peut vous montrer. Moi, je peux te dire, moi, j'ai une bonne idée pour Lydie. Moi, j'ai une bonne idée pour elle, tu vois, mais ça, c'est mon idée. Mais Dieu, Éphésiens, si on prie cette prière, c'est la plus grande prière de Paul, Éphésiens chapitre 1. Son deuxième plus grande prière, c'est Éphésiens chapitre 3. Et il prie quoi? Il prie, je prie que vous puissiez connaître l'amour de Dieu, la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu, et que vous soyez enracinés dans l'amour. Ça veut dire que tous vos nutriments, vous puisez de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amertume qui vient de téléjournal, c'est l'amour qui vient du ciel. Vous êtes enracinés là-dedans. Et à ce moment-là, ça c'est verset 15, verset 20, à ce moment-là, Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser ni imaginer pour votre vie. Et Paul, il se tombe pour ce but. Ça, c'était son stratégie. Ne regarde pas en arrière. 2014, c'est fini, quoi. Et puis, on a le retour de Jésus qui arrive. Et avant ça, beaucoup, beaucoup de magnifiques témoignages qui vont se passer ici. On va régner avec Christ ici dans cette vie, même avant qu'il vienne. Règne avec Christ. Ça, c'est Romains 5, 17, je crois. Amen. Wow. Moi, j'étais à la maison une fois, je dis, tiens, Jean 10, 10, Jésus, il est venu afin que je puisse avoir la vie et la vie en abondance. Est-ce que moi, je vis en vie abondante maintenant? Sinon, changeons. On y va plus loin. Il est venu pour la vie en abondance. Amen. Amen. Tu as entendu les deux vendeuses de chaussures qui étaient envoyées en Afrique? Et l'un, il a téléphoné, ah, j'aimerais bien retourner aux États-Unis parce que personne n'y porte des chaussures ici. Et l'autre, il a dit, envoie-moi autant de chaussures que tu peux trouver parce que tout le monde ici, ils ont besoin de chaussures. C'est vraiment, ça dépend de la perspective de chaque personne. Pour Israël, Goliath était trop grand pour tuer. Pour David, il était trop grand pour rater. Et c'est notre communion avec Dieu qui change notre perspective, qui change notre vision pour naviguer. Parce que en Europe, cette année, les choses horribles vont se passer. Les gens avec une vision, ils vont naviguer à travers ces mines. Ils vont slam dunk, ils vont gagner des âmes. On va avoir une moisson comme jamais auparavant ici à Nice. En France, les gens ils posent des questions maintenant. Et c'est à nous maintenant de dire la vérité. Amen. Alors, est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît, avec moi? Proverbe 29, verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Là, il n'y a pas de vision, les gens périssent. Ils sont restreints. Mais avec la vision, les gens, ils vivent. Il réalise la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne ici à Nice comme au ciel. C'est notre prière. Moi, j'aime bien vous lancer un défi pour vous-même personnellement, bien sûr pour l'Église. Mais moi, j'aimerais bien un cadeau pour Marie-Hélène, pasteur Marie-Hélène. Quand elle revient, elle trouve une Église. Chaque personne dans l'Église a une vision qui vient de Dieu. Qui s'accordent avec l'Église locale. Pas mille visions différentes pour l'Église, mais chaque personne a une vision. Ça fait des années que je suis pasteur du potentiel. Moi, je veux être pasteur de plus de potentiel. Moi, je veux être pasteur des gens qui disent, « Hey, pasteur, tu sais quoi? Ouais, je vais ouvrir une nouvelle boutique. Tu sais quoi, pasteur? Ouais, je vais me marier la semaine prochaine. Tu sais quoi, pasteur? Vision. Et, oh là là. » Moi, j'étais un gamin à 17 ans dans cette église locale en Caroline du Sud. Je n'avais même pas de passeport. Et puis, tout ce que cette femme a dit se réalise. Et puis, je retourne toujours, j'ai le même pasteur, après 40 ans, le même pasteur. Et je reviens là-bas et je suis un peu de joie pour lui. Il a d'autres personnes aussi dans cette église, mais ça crée cette famille dont pasteur Elisabeth a parlé. Alors, j'aimerais bien vous lancer un défi. Si j'arrive, j'impose les mains sur chacun de vous, vous dites votre avenir, mais je ne peux pas faire ça. C'est que Dieu, c'est votre privilège. C'est notre privilège et notre responsabilité, chacun de nous, de trouver notre avenir en Christ. Priez cette prière. La prière, c'est ça. La prière, c'est d'entrer dans la présence de Dieu, entendre les ordres de marche, et tu reviens dans ta groupe de jeunes, dans ta famille, dans ton église, dans ton entreprise, et tu amènes le ciel sur la terre. Amen. Dites à ton voisin, une chose. Hallelujah. Father God, we thank you for your word. Merci pour ta parole. Seigneur, je prie maintenant que tu confirmes ta parole avec des miracles, avec des signes qui suivent. La direction divine, pour une vie divine. Chaque individu, de le plus petit, les bébés, le plus âgé ici, Seigneur, qu'on court vers le but. Au nom de Jésus, je prie. Amen.